Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة وبقض الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que le faiseur de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 14 janvier 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran soutient toute initiative qui contribue à la stabilité régionale, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Le projet de sanctions américaines contre Poutine franchirait une limite, selon le Kremlin. La Zleka et les partenaires lancent un système de paiement transfrontalier pour stimuler le commerce intra-africain. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Évoquant que l'Iran, en tant qu'un grand pays de la région, a toujours eu un rôle essentiel, fondamental et constructif, et nous étions du bon côté des évolutions régionales, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que nous soutenons toute initiative qui contribue à la stabilité, à la sécurité et au développement régional. À la fin de sa visite au Qatar, devant un parterre de journalistes, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a précisé qu'au cours des entretiens avec l'émir du Qatar et le ministre des Affaires étrangères, nous avons discuté des relations bilatérales de diverses questions dans les relations et de quelques problèmes qui existaient, ainsi que des questions qui pourraient contribuer à augmenter le nombre d'hommes d'affaires iraniens au Qatar. Concernant les relations entre les deux pays et les points de vue précieux exprimés par l'émir du Qatar, nous avons convenu que dans les prochains jours, un certain nombre de ministres iraniens se rendront à Doha sur invitation et pour discuter de coopération économique, commerciale, scientifique et technologique de divers domaines d'intérêt pour les deux pays, dont la question de la santé et la question du contrôle du coronavirus au Qatar, a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. Insistant que la solution à certaines crises dans la région n'est qu'une solution politique et que nous ne devons pas essayer de résoudre les problèmes par la force, le militarisme et l'hégémonie, Amir Abdollahian a évoqué que l'expérience de ces dernières années a montré que ce n'est pas bénéfique pour la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères se trouve en visite à Pékin pour s'entretenir avec les autorités chinoises et des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun, d'une visite qualifiée de très importante. Le quartier général d'Al-Quds de la force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique a effectué des exercices opérationnels sur une vaste zone au sud-est de l'Iran qui comprenait diverses étapes de la plus grande manœuvre conjointe menée par ce quartier général. Les exercices militaires baptisés Mohammed, le messager de Dieu, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, ont été menés dans la zone géographique opérationnel du quartier général d'Al-Quds dans la province du Sistan et Baloutchistan en deux phases. La première comprenait des combats militaires et la seconde comprenait des opérations auxquelles assistaient les habitants de la province. Le projet de sanctions américaines contre Poutine franchirait une limite, selon le Kremlin. L'adoption de sanctions américaines contre le président russe Vladimir Poutine en cas d'agression de l'Ukraine franchirait une limite, a dénoncé Kremlin après la présentation d'un projet en ce sens par Washington. Des sanctions contre un chef d'État, c'est une mesure qui franchirait une limite. Ce serait équivalent à une rupture des relations, a dénoncé le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Il a noté que la proposition des sénateurs démocrates américains ne facilite pas l'établissement d'une atmosphère constructive pour les pourparlers russo-occidentaux en cours cette semaine sur une désescalade des tensions au cours de l'Ukraine. Nous sommes tout à fait capables d'édifier une nation noble, digne de ce nom et sans aucune soumission à l'étranger. Ce sera le grand thème de la période à venir, a souligné Seyed Safiuddin, un non-responsable du Hezbollah libanais, s'exprimant lors d'une conférence en soutien à l'opposition au régime de Saoud à une date commémorant l'exécution de l'imam Nimr al-Nimr, considéré comme une figure de la contestation saoudienne. Seyed Safiuddin a appelé Riyad à arrêter de nuire au Liban, l'accusant de vouloir monter les Libanais les uns contre les autres. L'Arabie Saoudite est appelée à ne pas intervenir en imposant ce point de vue au Liban, a-t-il encore déclaré, accusant le royaume de faire obstruction, de sanctionner et menacer. C'est une ingérence flagrante dans le pays, a-t-il martelé. Il a fait allusion aux récents propos de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Liban. Jeudi dernier, le diplomate avait estimé que le Hezbollah représente une menace à la sécurité régionale et a appelé les autorités libanaises à mettre fin à l'hégémonie, à ce qu'il a appelé l'hégémonie du Hezbollah sur tous les aspects de l'État. Si vous n'arrêtez pas, nous aurons une autre opposition, a souligné ce haut responsable du Hezbollah, Seyed Safiuddin, martelant que son parti n'acceptera plus d'être traité de terroriste et d'aventurier. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a affirmé que les mesures coercitives et unilatérales imposées à la Syrie visent le peuple syrien, notamment les enfants, les femmes et les vieux. Dans une interview avec l'agence de presse chinoise Xinhua, Faisal Miqdad a fait savoir que la Chine aide la Syrie partant du principe de réciprocité au service des questions des peuples et de l'avenir du monde pour aider à établir la paix et la sécurité internationale, au contraire des États-Unis qui imposent des conditions même aux organisations humanitaires qui fournissent l'aide au temps des crises, a-t-il souligné encore. Le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine, Zleka, la Banque africaine d'import-export et d'autres partenaires ont lancé le système panafricain de paiement et de règlement dans le cadre d'une tentative visant à dynamiser le commerce intra-africain. Cette décision fait suite à l'expérimentation réussie du système dans les 6 pays de la zone monétaire ouest africaine, à savoir le Ghana, le Nigeria, la Gambie, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. En lançant le système, le vice-président ghanéen a souligné que en fait le système panafricain de paiement et de règlement mettrait fin à la dépendance de l'Afrique à l'égard des devises tierces pour payer les transactions sur le continent et contribuerait à dynamiser le commerce intra-africain pour stimuler l'industrialisation et favoriser une croissance économique durable et inclusive en Afrique. Eh bien, avec cette dernière information, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Ansar Allah met en garde les Émirats Arabes Unis, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Simultanément à l'intensification des actions hostiles des Émirats Arabes Unis dans le sud du Yémen, un membre du bureau politique d'Ansar Allah a averti que si ces mesures se poursuivent, le Yémen ciblera les profondeurs des Émirats Arabes Unis. Mohamed Al-Bukhaiti a parlé d'un accord entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis selon lequel l'Arabie Saoudite remettra tous les gouvernorats du Sud, y compris Chabwa, aux Émirats Arabes Unis. En retour, ces derniers utiliseront toute leur puissance militaire au Yémen, comme c'était le cas auparavant. Il a expliqué qu'il y a des années que les Émirats Arabes Unis avaient eu tendance à se retirer de leur implication dans l'agression contre le Yémen et nous leur avons donné cette opportunité et avons gelé nos attaques contre la profondeur des Émirats. Mais maintenant, il est revenu à l'escalade. Nous conseillons aux Émirats Arabes Unis de ne pas continuer à opter en faveur de la tension, car nous serons alors obligés à frapper la profondeur des Émirats, a averti Al-Bukhaiti. En réponse à la question du présentateur de la télévision Al-Arabie sur la répétition du scénario d'une attaque au missile au fin fond du territoire émirati, il a répondu « Oui, bien sûr, parce que nous sommes en état de guerre. » Des affrontements acharnés sont en cours depuis un certain temps entre les mercenaires émiratis et l'armée yéménite et Ansar Allah dans la province de Chabwa. Les forces yéménites ont repoussé une offensive des mercenaires émiratis contre les districts d'Aïn et Arib à Chabwa ainsi que contre la province de Marib située dans le nord-est du Yémen. Des dizaines de mercenaires pro-émiratis ont été tués et blessés. Deux drones espions des Émirats Arabes Unis ont également été abattus au cours de ces derniers temps. Ces opérations interviennent après la saisie par la marine yéménite d'un navire de guerre émirati dans l'ouest du pays. Le navire en question, qui transportait des armes militaires pour la coalition d'agression saoudienne, a été intercepté par la marine yéménite près de la ville portuaire de Hudaïda. Dans ce droit fil, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a déclaré que l'armée yéménite avait infligé de lourdes pertes aux mercenaires et aux daéchistes soutenus par les Émirats Arabes Unis dans la province de Chabwa.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 8 janvier 2022. Depuis une semaine, le Kazakhstan, le plus grand pays d'Asie centrale, est confronté à des émeutes. Différentes villes de ce pays, et notamment sa capitale économique, Almaty, en effet, ont été le théâtre des affrontements violents entre les forces de sécurité et des émeutiers. Des dizaines de personnes ont été tuées, des milliers d'autres ont été arrêtées. Une force régionale de maintien de sécurité dirigée par la Russie a été envoyée pour aider le gouvernement kazakh à rétablir le calme et la sécurité. La République islamique d'Iran a appelé en effet le gouvernement et les manifestants en effet à engager le dialogue pour résoudre la crise conformément aux intérêts nationaux de ce pays. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a également mis en garde contre les tentatives étrangères d'exploiter en effet les troubles et de s'ingérer dans les affaires intérieures du Kazakhstan. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces émeutes, en effet, au Kazakhstan, ses principaux enjeux et, bien entendu, les réactions des différentes parties et les répercussions, en effet, de ces émeutes et de ces troubles dans la région d'Asie centrale. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Moscou Fabrice Beurre, expert pour l'ONG ODE. Monsieur Beurre, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur Presse TV.
Alors, comme vous le savez très bien, Monsieur Beurre, depuis une semaine, le Kazakhstan est le théâtre des émeutes sans précédent. De violents affrontements ont eu lieu entre les forces de sécurité et des émeutiers. Alors, deux questions pour commencer, Monsieur Beurre. Est-ce que là, il s'agit des émeutes réellement spontanées, et puis à qui profiteraient ces troubles-là?
Il s'agit d'une opération de déstabilisation de l'Asie centrale. Bon, c'est évident. Il faut voir la position géographique du Kazakhstan, qui est sur le flanc sud de la Russie. Rappelons qu'il y a à peu près presque 7000 km de frontières communes, donc c'est une évidence que c'est un peu, on va dire, le ventre mou de la Russie. Et puis bon, mettons-nous en place, hein. Après la perte de l'Afghanistan, les Américains ne sont pas partis sans stratégie et ils n'ont pas fait une croix sur l'Asie centrale. Et ce qu'ils peuvent contrôler, ils y mettent le chaos, hein. C'est leur stratégie habituelle. Mais ça peut pas se déclencher du jour au lendemain. On voit bien que c'est un plan préparé de longue date. Il y a le financement habituel de la société civile, comme on dit, sur les valeurs américaines, puisque maintenant c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent plus valeurs démocratiques, ils disent valeurs américaines. Et la Turquie, qui là encore a joué le rôle de cheval de Troie du NATO-Land, puisque depuis plusieurs années, elle est assez présente dans beaucoup de domaines, et pas seulement économique, dans la région. Et la stratégie donc est claire, elle suit le classique d'une révolution de couleurs, avec une variante proche orientale, c'est-à-dire l'implication de groupes terroristes, voire même de groupes djihadistes. Alors les manifestations qui sont dites pacifiques, qui dégénèrent rapidement en affrontement avec la police et puis après en affrontement armé, voilà la réalité aujourd'hui au Kazakhstan. Alors attention, je ne dis pas que les revendications populaires premières n'avaient pas lieu d'être et n'ont pas de raison. D'ailleurs, le gouvernement même lui-même l'indique qu'il est pro-dialogue, mais après le rétablissement de l'ordre. Mais ces revendications ont été manipulées pour des objectifs tout à fait évidemment différents. Et aujourd'hui, on est bien en face à des groupes terroristes dont l'objectif, c'est le renversement de l'État et pas soutenir les revendications sociales et économiques des manifestants kazakhs. Alors maintenant, cela étant dit, la crise, et je vais terminer là-dessus, la crise est à plusieurs variables. Parce que dans celle-ci, il y a peut-être également, semble-t-il, des affrontements entre différents clans du pouvoir. Et on peut imaginer une lutte d'influence à l'intérieur du pays et que cette lutte avec les plusieurs pôles à l'intérieur du Kazakhstan, a été instrumentalisé depuis l'extérieur pour mener le coup d'État, les tentatives de coup d'État que nous avons vues, et qui est en Tyrus en tout cas, parce qu'il faut se rappeler que depuis que le Kazakhstan se rapproche, c'est approximativement depuis 2014 d'ailleurs, se rapproche de l'Occident. Il y avait une politique des petits pas à l'intérieur anti-russe à l'intérieur du Kazakhstan qui était en cours, puisque pour comme dérivatif des problèmes économiques et sociaux, évidemment, on pointait toujours du doigt de la Russie. Et là, ma conclusion pour votre question, oui, nous sommes bien en face à une politique de déstabilisation, une tentative de révolution de couleur instrumentalisée par l'extérieur, avec un travail de sape américain et du cheval de Troie turc qui démontre une fois de plus qu'il est toujours, qui poursuit toujours une politique anti-russe de par le monde. Mais on voit aussi pour le Kazakhstan qu'une politique anti-russe dans les pays de l'ancienne Union soviétique aboutit toujours à une politique de chaos, et une politique de destruction et une politique de misère. Il suffit de voir ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Ukraine. Et c'est la tentative et la volonté, en tout cas, du NATO-Land de reproduire la même chose au cœur du Kazakhstan, au cœur de l'Asie centrale du Kazakhstan, puisque, en même temps, c'est sur les routes de, les nouvelles routes de la soie. Et la Chine étant également évidemment un adversaire des États-Unis, ils essayent de faire une pierre deux coups.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Bauer. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Très bien. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Michel, Monsieur Bauer l'a rappelé, il s'agit d'un plan préparé de longue date qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de déstabilisation de l'Asie centrale. Alors, pour vous, quelle est la réalité, en effet, des récentes, récentes évolutions depuis une semaine? Et puis, à quels changements géostratégiques on assiste après les défaites successives des États-Unis et de l'OTAN en Irak, en Syrie, en général au Moyen-Orient?
C'est la contre-offensive de l'impérialisme américain et c'est lié à la géopolitique internationale. C'est la même semaine où l'armée russe est déployée aux frontières de l'Ukraine pour faire face à la menace de l'OTAN et où les Russes se déploient au Mali qu'intervient les éléments du Kazakhstan. C'est une révolution de couleur transformée en agression terroriste et une fois de plus avec la vieille complicité du vieux complice des États-Unis qui est la Turquie d'Erdogan, puisqu'ils ont amené des djihadistes venus d'Idlib qui ont participé à l'assaut des forces de police. Il faut constater quelque chose, c'est que depuis une dizaine d'années, les révolutions de couleur Made in USA ne sont plus des éléments pacifiques menés par des foules pacifiques et civiles, comme on le raconte sur Wikipédia, l'encyclopédie des barbouzes de l'OTAN, mais on transforme immédiatement les manifestations pacifiques qui sont présentées comme telles dans les médias de l'OTAN, on les transforme en actes d'agression terroriste. En février 2011, à Benghazi, immédiatement, les manifestations de civils avaient été transformées dans des attaques terroristes avec des snipers venus de Pologne, on le sait aujourd'hui, et où des policiers avaient été pendus. C'était la même chose au Kazakhstan. On a passé à tabac des policiers, on les a déplacés nus dans les rues et deux d'entre eux ont même été décapités par les terroristes venus de Syrie. Voilà le vrai visage des États-Unis. Il s'agissait en plus d'un test, à mon avis. Il y a une série de négociations entre la Russie et l'OTAN qui vont se dérouler du 10 au 13 janvier. Manifestation à Vienne avec les États-Unis, manifestation avec l'OTAN et manifestation avec l'OSCE. Poutine a dit à l'avance la dernière semaine de 2021, que la Russie émettait, plaçait des lignes rouges qu'il s'agissait de ne pas dépasser. C'est une façon, je pense, les événements du Kazakhstan de tester la volonté de la Russie. La Russie a répondu avec une magnifique démonstration de force. En 48 heures, les forces de l'OTSC sont intervenues au Kazakhstan. Et on se rappelle qu'elles étaient prêtes, puisque en 2019 et 2020, de grandes manœuvres avaient eu lieu avec les différents pays de l'OTSC, dont le Kazakhstan, pour prévenir précisément la tentative d'une révolution de couleur pour renverser l'ordre politique et institutionnel. Aujourd'hui, la Russie a démontré qu'elle était une armée puissante, capable de se masser. Il y a plus de 100 000 hommes actuellement aux frontières de l'Ukraine, capables de se déployer au Mali malgré toutes les campagnes occidentales contre le soi-disant groupe Wagner et en même temps de déployer en 48 heures des troupes
merci pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Michel. Monsieur Beurre, Monsieur Michel a évoqué le contexte ukrainien. Pour de nombreux analystes, l'Occident, au lieu de, en effet, d'engager une confrontation directe avec la Russie sur l'Ukraine, a préféré de changer de terrain de jeu afin d'exercer une pression médiatique et politique sur la Russie, cette fois, en effet, au Kazakhstan. D'abord, quelles seront les répercussions, en effet, de cette nouvelle manœuvre occidentale en Asie centrale, et puis, et surtout, quelle sera la réaction à long terme de la Russie?
Les Américains, comme toujours, bien qu'ils aient des plans à long terme, la preuve, ce genre de révolution de couleur, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça se prépare sur plusieurs années. Alors, rappelez-vous la déclaration de Nuland sur l'Ukraine qui avait dit que ça faisait plusieurs années qu'ils avaient investi 5 milliards de dollars. Ça a été dit publiquement, donc voilà quelle est leur politique. Mais ils ont un défaut toujours, c'est d'arriver à croire à leur propre propagande et le côté qui existe d'enfants gâtés chez les Américains, de ne pas voir le résultat, de ne pas comprendre qu'on ne puisse ne pas les aimer. Et le résultat de cette politique, c'est que si ceux en Asie centrale fricotaient un petit peu avec l'Occident en se disant les Russes sont un peu trop présents, les Chinois également, en oubliant que ce seront toujours leurs voisins, les Américains sont bien loin, je pense qu'ils commencent à comprendre, ou certains ont déjà compris, que lorsque on serre la main de l'aide amicale et fraternelle que proposent encore aujourd'hui d'ailleurs les États-Unis et au Kazakhstan, c'est assez amusant, ça finit toujours en coup d'État, ça finit toujours en révolution orange, ça finit toujours en massacre, ça finit toujours dans le chaos. Je ne vais pas vous citer tous les pays de ces dernières années. Donc ça, c'est une des conséquences qu'il va y avoir sur les pays d'Asie centrale, c'est de comprendre que leur voisin sera toujours la Russie, et que la Russie est présente, et que la Russie intervient dans le cadre des accords qui sont signés, dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective de l'OTCS, et que donc la Russie est un partenaire fiable, à la différence des États-Unis, qui mettent en place une politique de fourberie, pour éviter de parler trivialement. Et donc nous avons aujourd'hui ce résultat sur l'Asie centrale. Maintenant, par rapport au front occidental, nous avons, Luc Michel l'a indiqué, cette politique américaine de pousser jusque dans les retranchements la Russie, mais comme Poutine l'a indiqué, cette fois-ci, nous sommes chez nous. Nos deux pieds sont chez nous, nous ne pouvons plus faire marche arrière, nous sommes à la porte de notre maison. Et ils essayent encore et encore évidemment de pousser, mais vous savez, aux États-Unis il y a deux tendances. Vous avez la tendance qui veut pas s'entendre mais neutraliser une entente avec la Russie pour arriver à une forme de neutralité afin que la Russie ne s'immisce pas dans la lutte qu'il mène contre la Chine. Mais en même temps, ils peuvent s'empêcher toujours de revenir à leurs fondamentaux de la politique néoconservatrice, à leur vision géopolitique de la chose, qui est le fondement de leur politique internationale, à savoir qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Et donc nous avons aujourd'hui toujours une politique, bien évidemment, de confrontation vis-à-vis de la Russie, d'encerclement, et ce qui se passe en Asie centrale, c'est un des éléments supplémentaires de cet affrontement. Et donc nous avons aujourd'hui, nous sommes dans avec les négociations qui arrivent demain, nous avons une confrontation, chacun essaye de montrer ses muscles, mais les Américains, en montrant leurs muscles, franchissent des lignes rouges. Sauf que la Russie, aujourd'hui, les lignes rouges, elle les a bien indiquées, et elle réagit aujourd'hui et d'une manière prompte. On a vu 24 heures pour, même pas quelques heures, suite à la demande du président du Kazakhstan, il y a une réponse. Et même pas 48 heures après, il y avait déjà donc des soldats de l'OTSC qui étaient présents en soutien dans la lutte contre le terrorisme. Mais nous voyons bien, pour conclure votre question, nous voyons bien aujourd'hui, c'est encore plus visible, il n'y a que les médias de l'OTAN qui peuvent, avec leur propagande russophobe haineuse, s'auto-intoxiquer sur la chose. Mais la vraie communauté internationale, celle qui ne regarde pas les médias de Paris et de Washington, ou de Berlin, ou de Londres, voit bien une chose. Partout où s'immiscent soit l'armée américaine, soit les ONG américaines, soit les pays du bloc américain du NATO-Land, il n'y a comme conséquence toujours que la déstabilisation, le chaos, les coups d'État, et donc un avenir pas très pacifique. Où ils mettent les pieds à chaque fois, il n'y a que le malheur des peuples. Et comme en Syrie, comme aujourd'hui en Afrique, comme aujourd'hui en Asie centrale, la Russie démontre que son action dans le cadre international est là dans la lutte contre le terrorisme et comme axe géopolitique alternatif contre le bloc occidental. Nous avons bien aujourd'hui un bloc de l'Est, un nouveau bloc de l'Est, le bloc eurasien, qui lutte contre le terrorisme pour trouver une nouvelle stabilisation au niveau géopolitique. Et ce bloc aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est votre pays, l'Iran. Et dans le cas précis, dans l'actualité actuelle, c'est bien la Russie qui démontre qu'elle est la tête de proue de ce bloc de l'Est, de ce nouveau bloc de l'Est, de ce bloc eurasiatique, contre les menées agressives et impérialistes du bloc occidental, du bloc américain.
Merci encore, M. Beurre. Une toute dernière question à M. Michel. Monsieur Michel, M. Beurre l'a rappelé, l'Occident a toujours poursuivi et poursuit aujourd'hui encore une politique de confrontation à l'égard de la Russie. Et bien sûr, aujourd'hui, il paraît que le conflit est transplanté en Asie centrale et plus précisément eu égard au récent développement au Kazakhstan. Qu'est-ce qui va sortir de ce nouveau terrain de confrontation?
Écoutez, la confrontation est devenue mondiale puisqu'elle s'est également déplacée en Afrique et elle s'est également déplacée en Amérique latine grâce à votre pays, au Venezuela, au Nicaragua et également à Cuba et également avec les Russes également. Mais ce que nous constatons, c'est que un cycle de 20 années de révolution de couleur made in USA vient de se terminer. Fabrice et moi, nous connaissons bien ces révolutions de couleur puisque nous les combattions déjà lors de la première d'entre elles à l'été 2000, à Belgrade en Yougoslavie. À l'époque, c'était des rouleaux compresseurs qui emportaient tout, en Ukraine, en Géorgie, en Asie centrale, à Haïti, etc. Partout, rien ne pouvait s'opposer à ce rouleau compresseur. C'est terminé aujourd'hui. Le fait de déclencher une révolution de couleur et même parfois d'installer un gouvernement pro-américain ne garantit plus la prise en compte d'un pays. Les gouvernements pro-américains du Soudan issus d'une révolution de couleur initiée par Donald Trump en 2019 a été renversé il y a quelques semaines par des généraux liés à la Russie. On constate aujourd'hui au Kazakhstan que c'est raté complètement. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Donc maintenant, les Américains doivent s'habituer simplement, c'est que le bloc de l'Est est en capacité de combattre les révolutions de couleur et même de combattre les agressions de l'OTAN, notamment avec ce nouveau mode de faire la guerre que l'Iran en Liban a inventé en 2010 et la Russie en Ukraine, précisément en 2013, qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, elle combat la guerre classique de l'OTAN. Il y a une véritable panique d'ailleurs des pays de l'OTAN et des États-Unis pour cette guerre hybride qui est devenue un fonds de commerce de leurs stratèges, de leurs think tanks, de leurs universitaires. Ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, leurs adversaires ont les capacités de s'opposer à eux d'une façon décisive, comme le Kazakhstan est en train de le démontrer.
Donc, dans un sens plus large, Monsieur Michel, ce bloc de l'Est et de l'Ouest, ces confrontations ont tendance à se poursuivre éternellement, avec cette différence que seulement les terrains de jeu changent dans cette politique de confrontation entre la Russie et les États-Unis.
Les terrains de jeu ne changent pas tellement. Vous savez, quand vous prenez le cas de l'Afrique, les Américains du think tank géopolitique Strasbourg sont les premiers à la dire, la Russie est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Nous qui avons combattu l'OTAN dès les années 1980, nous avions déjà à l'époque cette confrontation qui existait, d'ailleurs, aux frontières dans l'Europe centrale, qui existait en mer Noire, qui existait en Méditerranée et qui existait en Amérique latine. Rappelons-nous quand même les portées des sandinistes au Nicaragua, etc. Et le blocus et les tentatives d'isoler Cuba. Donc je ne pense pas que les terrains se sont déplacés. Je pense au contraire qu'on est en train de revenir aux fondamentaux. Il y a aujourd'hui, comme lors de la première guerre froide, deux blocs militaires et géopolitiques. Le bloc américain occidental et le bloc de l'Est. Le bloc américain occidental, il est constitué de puissances maritimes, les États-Unis avec derrière elles la France et les Émiratis, l'Australie et le Japon. Et il y a un bloc de vieux empires continentaux, la Russie, la Chine et l'Iran. Et ces deux blocs commencent, de par la volonté même des Américains, à être aussi de nature idéologique. Quelle est la ligne de vie des États-Unis ? C'est la démocratie libérale, c'est l'économie libérale, c'est la volonté évidemment d'être le modèle de la démocratie. Quel est le modèle justement du bloc de l'Est ? C'est le monde multipolaire, c'est le respect des souverainetés nationales et c'est une économie qui n'est pas aux mains des multinationales ni aux mains des financiers propres individuels, mais qui est une économie dirigée par l'État, que ce soit en Russie. Merci. Avec des firmes d'État issues de l'ère soviétique, que ce soit en Chine avec l'économie qui est dirigée par le Parti communiste chinois et en Iran. Actuellement, d'ailleurs, il y a eu il y a quelques jours le sommet pour la démocratie organisé par Biden aux États-Unis. Les Chinois ont répondu de façon spectaculaire cette fois-ci. Ils ont publié un livre blanc où ils posent 10 questions sur la soi-disant démocratie américaine. Mais surtout, ils opposent aujourd'hui leur modèle, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la démocratie de la dictature du prolétariat. Ils opposent leur modèle, ils opposent les voies russes, chinoises, iraniennes ou africaines en Guinée équatoriale, par exemple, vers la démocratie, au modèle américain du parlementarisme bourgeois. C'est le retour à la première guerre froide, qui est salutaire pour les peuples.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Fabrice Soare, expert pour l'ONG depuis Moscou. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
Washington poursuit le plan de la RAND au Kazakhstan. Le président états-unien Joe Biden a répondu à la proposition de la Russie d'un traité garantissant la paix sur la base du respect scrupuleux de la Charte des Nations Unies et de la parole donnée. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine le 30 décembre 2021. Sans surprise, il n'a pas répondu au fond de la requête russe, se contentant d'évoquer un possible arrêt des opérations américaines en Ukraine. Simultanément, le Conseil national de sécurité des États-Unis a déclenché plusieurs actions contre la Russie. Il ne s'agit pas de renverser des gouvernements ou de lancer de nouvelles guerres, mais d'obliger Moscou à intervenir hors de ses frontières de manière à l'épuiser. La Fédération de Russie dispose en effet déjà d'un gigantesque territoire qu'elle ne parvient pas à exploiter avec une population de seulement 150 millions d'habitants. En mai 2019, la RAND Corporation, le think tank du complexe militaro-industriel américain, avait énuméré 6 options en la matière. Premièrement, armer l'Ukraine. Deuxièmement, augmenter le soutien aux terroristes en Syrie. Troisièmement, promouvoir un changement de régime en Biélorussie. Quatrièmement, exploiter les tensions dans le sud du Caucase. Cinquièmement, réduire l'influence russe en Asie centrale. Et finalement, sixièmement, rivaliser avec la présence russe en Transnistrie. la sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques, Victoria Nuland, s'est rendue à Moscou du 11 au 13 octobre 2021 pour rencontrer le gouvernement russe. Celui-ci a exceptionnellement levé pour l'occasion l'interdiction qui lui était faite de voyager en Russie. En effet, Madame Nuland n'est pas une fonctionnaire comme les autres, c'est une personnalité de l'État profond américain participant à toutes les administrations, qu'elles soient républicaines ou même démocrates, à l'exception de l'administration jacksonienne du président Donald Trump. C'est elle qui, en 2001, bâtit le rappel des alliés pour se battre en Afghanistan, malgré l'opposition du président français Jacques Chirac et du chancelier allemand Gerhard Schröder. C'est elle qui sauva le régime israélien à la fin de la guerre de 2006 contre le Liban, organisant un cessez-le-feu unilatéral de manière à lui éviter l'humiliation d'une défaite militaire. Et c'est encore elle qui organisa la révolution colorée du Maïdan en 2014 pour renverser le président ukrainien Viktor Yanukovych et le remplacer notamment par des nazis. On avait alors pu constater le mépris dans lequel elle tient les Européens, provoquant un malaise à Bruxelles et les sanctions de Moscou. Victoria Nuland avait expliqué sa manière de traiter avec la Russie dans un article provoquant de Foreign Affairs en juillet 2020, épinglé Poutine. Et l'autrice, donc néoconservatrice, travaillait alors pour l'ancienne secrétaire d'État démocrate Madeleine Albright et exposait ce que donc le prochain président devrait faire vis-à-vis de Moscou. Après avoir présenté une Russie en ruine et un Poutine aux abois, elle proposait de négocier un nouveau traité START, de combattre l'usage que les Russes font de l'Internet, de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, puis même à l'OTAN, et l'opposition armée en Syrie. Elle imaginait des investissements américains en Russie pour moderniser ce pauvre petit pays en échange d'un alignement politique de celle-ci sur les démocraties occidentales. Le Kremlin, qui ne reconnaît rien du constat qu'elle dresse, l'a pourtant reçu comme il avait accepté la tenue du sommet Biden-Poutine à Genève après que le président états-unien eut insulté à la télévision son homologue russe. Rien n'a filtré de ces réunions à huis clos, mais il est hautement probable que Madame Nuland a menacé une fois de plus la Russie, car c'est ce qu'elle fait sans interruption depuis 20 ans. Sitôt son déplacement fini à Moscou, Nuland s'est rendue à Beyrouth rencontrer le nouveau gouvernement de Najib Mikati, puis à Londres pour sonner le tocsin. Elle y a annoncé que Moscou massait des troupes à la frontière ukrainienne et s'apprêtait à envahir le pays. Dans la culture d'Asie centrale, le chef est une sorte de Kubilai Khan et sa famille à la fois des sujets et des privilégiés. Le Kazakhstan ne forme une nation que depuis quelques années. Il le doit au président Nursultan Nazarbayev qui a su fédérer différentes tribus. Son successeur, le président Kassym Jomart Tokayev, donc, a démocratisé le pays, mais les comportements sont toujours influencés par la culture turco-mongole. Le 2 janvier 2022, des manifestations contre la hausse du prix du gaz de 13% ont tourné à l'émeute. Des groupes coordonnés ont attaqué les bâtiments publics et souvent donc des commerces locaux. Des snipers ont tiré depuis les toits à la fois sur des manifestants et sur des policiers. Des armureries donc militaires ont été attaquées. Le butin a été distribué au sein des groupes d'assaillants. Le phénomène s'est reproduit un peu partout dans le pays. La prison de Taldykorgan, où donc des terroristes sont détenus prisonniers, a également été attaquée. L'opération est conduite donc par des terroristes ayant combattu en Syrie et par d'anciens collaborateurs afghans de la CIA. Les groupes qu'ils dirigent sont constitués donc par des terroristes kazakhs. Le président Kassym Jomart Tokayev a reconnu la légitimité des manifestations et réprimé les attaques terroristes. Il a proclamé l'état de siège et fait arrêter le président du Conseil de sécurité, Karim Massimov, un ancien banquier qui fut deux fois Premier ministre et chef de l'administration présidentielle. Il est actuellement inculpé de haute trahison. Puis Tokayev a nommé son successeur et réuni le Conseil de sécurité. Les rapports de son administration ont évalué à environ 20 000 le nombre des insurgés, incluant à la fois des terroristes et émeutiers étrangers et des terroristes kazakhs. Le pays entretenait depuis de longues années, donc bien avant le plan Kouchner de normalisation, des relations cordiales avec le régime israélien. Si l'ancien président Nazarbayev avait tenu des positions antireligieuses durant l'époque soviétique, il s'est converti par la suite et a accompli le pèlerinage à la Mecque. Les églises ont été autorisées sous réserve d'enregistrement, un sommet interreligieux comparable à celui que le Vatican organise à Assis, donc a lieu chaque année. Le Kazakhstan distingue les religions, quelles qu'elles soient, de l'islam politique qui lui est interdit. Et cependant, la confrérie des frères musulmans et le Hizb-ut-Tahrir, donc le parti de la libération, se sont développés dans toute l'Asie centrale avec l'aide du MI6 britannique. C'est d'ailleurs pour combattre ce séparatisme que l'organisation de coopération de Shanghai a été créée. Le Conseil de sécurité a transmis au Kremlin les éléments dont il dispose déjà sur le complot dont le pays est victime. Il a requis l'aide de l'Organisation du traité de sécurité collective pour combattre les terroristes. Le président Tokayev a donné sans attendre l'ordre à ses forces de sécurité de tirer sans sommation et de tuer les terroristes qu'elles trouveraient. L'OTCS a répondu immédiatement, déployé donc 2500 soldats, des Arméniens, des Biélorusses, des Russes et des Tadjiks, sous les ordres du général Andrei Serdyukov, commandant en chef des parachutistes de la Fédération de Russie. La Chine populaire a annoncé être prête à venir en aide en cas de besoin. La Turquie a apporté son soutien au président Tokayev, signifiant ainsi qu'elle n'était pas impliquée dans le complot terroriste. L'Afghanistan a fait de même, ce qui est moins surprenant dans la mesure où d'une part les talibans sont des néo-bandits et d'autre part que les Afghans qui participent à l'attaque terroriste sont d'anciens collaborateurs de la CIA qui ont fui le pays. Rapidement, on apprenait que la National Endowment for Democracy, dont Victoria Nuland est une ancienne administratrice, avait dispensé des millions de dollars depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pour étendre la démocratie au Kazakhstan. Par le passé, l'ancien ministre de l'énergie, l'oligarque Mourtar Ablyazov, avait créé un parti d'opposition non reconnu, le Choix démocratique du Kazakhstan, avec le gendre du président Nazarbayev, Rakat Aliyev. Ensemble, ils avaient tenté de le renverser avec l'aide de George Soros. Donc Aliyev est mort en 2015 en prison en Autriche, tandis qu'Ablyazov s'est exilé donc au Royaume-Uni puis en France. Plusieurs fois arrêté dans l'Union européenne pour meurtre en Russie, il n'a jamais été extradé. Il a obtenu l'asile politique en France et réside à Paris depuis plus d'un an. Et dès le premier jour d'émeute, il a lancé un appel pour renverser le régime, c'est-à-dire non seulement le président Kassym Jomart Tokayev, mais aussi l'ancien président Nursultan Nazarbayev, donc aujourd'hui officiellement retraité, mais qui est toujours très influent. Selon certaines sources non confirmées, Mourtar Ablyazov serait en lien avec le neveu du président Nazarbayev, Samat Abish, un ancien directeur adjoint des services secrets. Celui-ci aurait été arrêté le 7 janvier pour haute trahison et, on le sait, militant de l'islam politique comme son père qui a construit une gigantesque mosquée à Almaty. L'ancien président Nursultan Nazarbayev, donc qui a 81 ans, est revenu dans la capitale. Et si son état de santé le lui permet, il pourrait reprendre les choses en main, notamment avec l'aide de sa fille Dariga Nazarbayeva.